Eh bien, bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Je voudrais saluer ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Visage qui ne m'est pas tout à fait connu. Soyez bienvenus. Alors, pour vous, ça va être un défi particulier parce que, comme on l'a dit, on termine le livre de Daniel. Donc, si vous n'avez pas eu le début, je ne sais pas comment vous allez faire pour rattraper toutes les prédications qui ont été faites. Ce d'autant que les textes de la fin de Daniel se prête beaucoup plus à un séminaire, à une étude biblique approfondie, qu'à une prédication. J'avoue, je me suis un peu cassé les dents en essayant de voir quels enseignements on pouvait tirer d'une cinquantaine de versets, puisqu'on en a 40 et quelques au chapitre 11, 13 au chapitre 12. Et donc, du coup, on est en plus devant des textes qui se rangent dans le registre de la prophétie. Un texte prophétique, la question c'est, la prophétie est-elle déjà accomplie? Et si vous avez du sang normand, vous allez dire oui et non. Eh bien là, typiquement, il n'y a pas besoin d'être normand pour regarder la fin du livre de Daniel et de dire oui et non. Certaines prophéties sont déjà accomplies, d'autres sont encore à venir. Et en fait, le livre de Daniel et la fin du livre de Daniel va nous conduire jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, jusqu'à la victoire définitive et éternelle. Et c'est ce qui rend parfois difficile la compréhension et l'interprétation de ce texte biblique. Alors vous me direz, une clé ou plusieurs clés de lecture qui nous aident, quand on a des textes compliqués, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne ferme pas sa Bible et on les met de côté. On va regarder d'autres textes qui parlent du même sujet, essayer de les confronter pour bien comprendre quel en est l'enseignement. Et puis, deuxième clé de lecture, c'est le contexte. Eh oui, le contexte. Quel est le contexte du texte? Pourquoi a-t-il été écrit? À qui s'adresse-t-il? Tout cela, ça fait partie des éléments qui nous aident à comprendre. Et alors, dans les données contextuelles, on a besoin d'avoir, en plus de notre lecture de la Bible, une petite idée de l'histoire du peuple de Dieu, notamment dans cette période qui suit la fin de la rédaction de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Toute cette période intertestamentaire des 400 ans où Dieu ne s'est pas exprimé par sa parole, où on avait plus forcément de messages prophétiques, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Et là, évidemment, on a quelques aides pour comprendre le livre de Daniel. Donc, chers amis, en plus du contexte, de la culture, il faut s'intéresser un petit peu à l'histoire. Alors, Amélie, avec qui j'ai eu une petite conversation téléphonique, elle vient de passer un séjour à l'Institut biblique de Genève. Ils avaient un cours de formation biblique pour les jeunes qu'elle vient de terminer. Et elle me disait qu'elle avait discuté avec l'un ou l'autre étudiant. Évidemment, quand on lui a demandé, tu t'appelles comment? Amélie. Mais comment? Milleman. Ah, tu es la fille de Paul qui nous fait les cours d'histoire de l'Église. Oui. Donc, passer inaperçu pour une jeune de 17 ans, c'était un peu raté. Et alors, il disait, papa, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, quand ils voient le mot histoire, ils sont plusieurs à avoir envie de partir en courant au sens inverse. Parce qu'ils disent, oulala, c'est compliqué, on va rien comprendre, etc. Et puis, ils m'ont dit que tu étais quand même un chouette enseignant. Bon, allez hop, les chevilles, elles ont un peu enflé, on était contents. Mais il n'empêche que ce qui était intéressant, c'est de se dire finalement, si on arrive à comprendre comment les événements de l'histoire nous aident à mieux présenter et défendre la foi, là, on a tout compris. Et moi, c'est dans cette perspective-là que je fais et que j'enseigne l'histoire de l'Église, c'est justement de nous dire, mais finalement, tous ces témoins d'hier et d'aujourd'hui, en quoi ils peuvent nous aider à mieux comprendre comment présenter, défendre notre foi chrétienne? Eh bien, c'est un peu avec ce regard que j'ai essayé d'aborder les textes de la fin du livre de Daniel. Alors, quelques mots pour vous resituer le contexte. Je ne vais pas rentrer, comme vous l'avez compris, dans un commentaire verset par verset, mais simplement vous rappeler que Daniel faisait partie de la première vague de déportation à Babylone. Il a été témoin de l'ascension, de la déchéance de plusieurs rois, de l'Empire médo-perse. À la fin du livre de Daniel, nous sommes dans les premières années d'un personnage qui est appelé Darius le Mède. Darius le Mède, on se demande qui c'est, tous les théologiens et les historiens ne sont pas forcément d'accord, jusqu'au moment où on a réussi à l'identifier à Cyrus, Cyrus dont il est question aussi dans le livre d'Ésaïe, qui a publié ce décret pour autoriser le peuple d'Israël à revenir reconstruire le temple. Alors là, l'Ancien Testament nous donne quelques éléments de lecture. Il est question dans les livres d'Esdras et Néhémie d'un certain Zorobabel. Zorobabel, petit-fils du dernier roi, héritier de David, qui est nommé gouverneur. Et puis, il va y avoir Néhémie aussi qui va venir reconstruire la muraille. On est dans les débuts de cette période qu'on va appeler la période du second temple. Un nouveau temple va être reconstruit pour que le peuple de Dieu puisse adorer. Est-ce que pour autant ça va être une période de stabilité où Israël va pouvoir adorer son Dieu dans son pays, où tout ira bien dans les meilleurs des mondes? Eh bien, pas du tout, les amis. Ça va plutôt être la catastrophe. Parce que on va avoir un roi grec, Alexandre le Grand, qui va multiplier des conquêtes, étendre son empire depuis la Grèce jusqu'à Babylone, qui va faire tomber l'empire médo-perse, et qui va mourir très jeune. Après de 32, 33 ans, Alexandre meurt, et la succession va entraîner une série de guerres civiles et politiques dans tout le Proche-Orient. Tout le Proche-Orient va être confronté à cette instabilité politique. Parmi les héritiers d'Alexandre, deux généraux, le général Lagos, le général Séleucos, vont donner naissance à deux dynasties qu'on va appeler les Lagides, plus connus sous le nom de Ptolémée, et les Séleucides, qui vont se succéder, Séleucos et Antiochus, et les deux royaumes seront en guerre perpétuelle et revendiqueront la terre d'Israël. Ça, c'est une donnée qui est fondamentale pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre une partie de ces prophéties de Daniel. Parmi ces héritiers, dans la lignée des Séleucides, l'un d'entre eux va s'illustrer de manière déplorable comme étant le modèle de l'anti-Dieu ou de l'antichrist, c'est Antiochus IV, dont je vous dirai quelques mots dans quelques instants. Instabilité jusqu'à la conquête romaine. Judée et Palestine passent d'un territoire à l'autre. Alors dans les Ptolémées, pour la petite anecdote, il y en a un d'entre eux, le deuxième du nom, qui va mandater 70 rabbins pour faire une traduction de la Bible en langue grecque. Oui, petite anecdote dans l'histoire, je trouve que c'est toujours intéressant quand vous avez des petites pépites que vous trouvez là. Et cette traduction, puisqu'elle est confiée à 70 rabbins, va s'appeler les 70. Traduction des 70. Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité en lisant vos Bibles de prendre certains passages du Nouveau Testament et d'aller voir quand c'est une citation d'Ésaïe, quand c'est une citation des psaumes, si le texte que vous avez dans les psaumes ou dans Ésaïe est le même. Eh bien, pas tout à fait. Parce que dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, ils vont reprendre la traduction des 70 et non pas la version originale en hébreu. Voilà encore une petite anecdote qui nous aide à comprendre un peu le contexte. Alors, je vous propose de suivre avec moi la lecture des chapitres 11 et 12 de Daniel. Et je pense que tu vas nous le projeter. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir pris le temps de chercher le texte. Quant à moi, la première année du règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour donner force et protection. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Il y aura encore trois rois qui régneront sur la Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il aura gagné en force grâce à ses richesses, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Cependant, un roi vaillant se dressera. Il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il sera dressé, son royaume sera dit brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Son royaume n'appartiendra pas à ses descendants et ne sera pas aussi puissant que le sien, car il sera déchiré et passera à d'autres après eux. Le roi du sud deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et exercera sa propre domination, une domination puissante. Au bout de quelques années, ils concluront une alliance et la fille du roi du sud s'unira avec au roi du nord pour concrétiser leur accord. Mais elle ne tiendra pas le coup, ni lui ni son armée ne pourront résister. Elle sera cédée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père, avec celui qui aura été son soutien à cette époque-là. Un rejeton de la même racine se dressera à sa place. Il viendra attaquer l'armée du roi du Nord et pénétrera dans sa forteresse. Il interviendra contre eux et deviendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs idoles en métal fondu, ainsi que des objets précieux en argent et en or. Puis il restera quelques années à distance du roi du Nord. Celui-ci marchera contre le royaume du roi du Sud, mais il devra revenir dans son territoire. Ses fils se mettront en campagne, rassembleront d'immenses troupes, elles viendront et déferleront comme un torrent déborderont, puis reviendront et pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Sud. Le roi du Sud s'irritera, il sortira, combattra contre le roi du Nord, il mobilisera une grande troupe et les troupes du roi du Nord seront livrées à son pouvoir. Cette troupe sera fière et le cœur du roi du Sud se remplira d'orgueil, il fera des dizaines et des milliers de victimes et ne triomphera pas. En effet, le roi du Nord reviendra, mobilisera une grande troupe plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À cette époque-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Sud. Des hommes violents issus de ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision. Ils trébucheront. Le roi du Nord viendra. Il construira des remblais, s'emparera des villes fortifiées. Les troupes du Sud et l'élite du roi ne résisteront pas et n'en auront pas la force. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Il formera le projet d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure un accord avec le roi du Sud. Il lui donnera sa fille en mariage dans l'intention de détruire sa royauté, mais cela n'arrivera pas et n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Il s'orientera vers les îles, en prendra beaucoup. Mais un chef militaire mettra fin à la honte qu'il voulait lui attirer et la fera retomber sur lui. Il se distinguera ensuite vers les se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, où il trébuchera et tombera, et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un oppresseur dans la plus belle partie du royaume, mais il sera brisé en quelques jours, et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans qu'on lui donne la dignité royale. Il arrivera dans une période de tranquillité, s'emparera du royaume grâce à des intrigues. Les troupes qui déferleront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées de même que le chef de l'alliance. Une fois qu'on se sera rallié à lui, il recourra à la tromperie, il se mettra en marche et aura le dessus avec peu de monde. Il pénétrera, en toute tranquillité, dans les endroits les plus fertiles de la province, et il fera ce que n'avaient pas fait ses prédécesseurs ni ses ancêtres. Il distribuera le butin, les biens, les richesses. Il formera des plans contre les forteresses, et cela prendra un certain temps. À la tête de la grande armée, il déploiera sa force et son courage contre le roi du Sud. Ce dernier s'engagera dans la guerre, avec une très grande et puissante armée, mais il ne résistera pas car on formera des plans contre lui. Ceux qui mangeront des plats servis à sa table causeront sa perte. Son armée se dissoudra et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire du mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin arrivera au moment fixé. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Dans son cœur, il aura des intentions hostiles contre l'Alliance Sainte. Il agira contre elle avant de retourner dans son pays. Au moment fixé, il marchera de nouveau contre le Sud. Mais cette fois-ci, cela ne se passera pas comme la première fois. Les bateaux devenus de l'Ouest avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis dans sa rage, il agira contre l'Alliance Sainte. Il reviendra et traitera avec bienveillance ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abominable dévastation. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Ils se heurteront pour un temps à l'épée, à la flamme, à la déportation et au pillage. Durant cette période, ils recevront peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux de façon hypocrite. Quelques-uns des hommes perspicaces trébucheront afin d'être affinés, purifiés et épurés jusqu'au moment de la fin, car elle n'arrivera qu'au moment fixé. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance. Il se grandira au-dessus de tous les dieux et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui est décidé s'accomplira. Il ne prêtera attention ni au Dieu de ses ancêtres, ni à celui que désirent toutes les femmes. Il ne prêtera attention à aucun Dieu, car il se grandira au-dessus de tous. C'est le Dieu des forteresses qu'il honorera sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissent pas ses ancêtres, il rendra hommage avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses, des objets de valeur. C'est avec ce Dieu étranger qu'il agira contre les endroits fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il leur donnera la domination sur beaucoup, leur distribuera des terres en guise de récompense. Au moment de la fin, le roi du sud l'affrontera et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers ainsi que de nombreux bateaux. Il pénétrera dans tous les pays, déferlera comme un torrent et débordera. Il pénétrera dans le plus beau des pays, beaucoup trébucheront, mais voici ceux qui seront délivrés de son pouvoir, Édom, Moab et les principaux des Ammonites. Il étendra son pouvoir sur les divers pays et l'Égypte n'y échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, de tous les biens précieux de l'Égypte. Les Libyens, les Éthiopiens marcheront à sa suite. Des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront et il partira dans une grande colère, détruire et exterminer beaucoup de noms. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à sa fin sans que personne ne l'ait. À cette époque, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup sont perplexes, mais la connaissance augmentera. Moi, Daniel, je regardais, et je vis deux autres hommes se tenir debout, l'un sur la rive du fleuve, l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux a dit à l'homme habillé de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, « Quand viendra ces événements, la fin de ces événements extraordinaires ?» Et j'ai entendu l'homme habillé de lin, celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve, il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. J'ai entendu, mais sans comprendre. Et j'ai dit, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela ?» Il a répondu, « Vas-y, Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés, affinés. Les méchants feront le mal et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. » Depuis le moment, le sacrifice perpétuel sera supprimé et où l'abominable dévastation sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Quant à toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Beaucoup, 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 beaucoup d'informations. J'espère que ma lecture ne vous a pas perdu en chemin. Peut-être un petit peu. Royaume du Sud, Royaume du Nord, c'est les deux généraux, comme je l'ai évoqué, hein, l'Agide et Séleucide. Et c'est vrai que ces deux royaumes se sont donné la guerre. Alors, on va revenir sur quelques points de repère. Tout d'abord, dès le début, les versets 3 et 4 font une allusion très précise à la conquête d'Alexandre le Grand. Puissant conquérant qui va imposer sa domination, l'extension de son royaume va faire une vraie tache d'huile et il meurt. On dit que son royaume est divisé aux 80. Quatre généraux vont lui succéder. Alors, si vous étiez présent, si vous vous souvenez, il a été question à un moment donné dans la vision des quatre bêtes de Daniel, un peu plus avant, d'un léopard qui arrivait et qui balayait tout son passage. Eh bien, c'était une allusion claire au règne d'Alexandre. Les événements qui suivent Daniel 11, 5 à 20 nous parlent du conflit entre Séleucos et Antiochos III. Et ce dernier, Antiochus III, est aussi appelé le Grand, il va être vaincu en Égypte. Et à partir du verset 21, chapitre 11 toujours, on a l'évocation d'Antiochus IV, le successeur, qui est le modèle à ne jamais suivre. Celui qui va s'attaquer de façon méchante au peuple de Dieu, au temple, à un certain nombre de pratiques qui va commettre de profondes abominations. C'est vraiment pas quelqu'un de recommandable, Antiochus IV. L'un des plus grands persécuteurs du peuple d'Israël. Qu'a-t-il fait? Je lève un peu le suspense. Le culte juif, on le supprime. On impose le culte païen. Comment faire? On va ériger une statue de Zeus en plein milieu du temple d'Israël. Second temple qui avait été reconstruit après le retour d'Esdras, vous vous souvenez. Profanation en plein milieu. Et Antiochus impose non seulement qu'on adore Zeus et les dieux de l'Olympe grec, mais en plus, comble de l'horreur pour les juifs, qu'on leur sacrifie des porcs, animaux impurs qui n'avaient pas leur place dans le temple. Sacrifier des porcs, piller ensuite le trésor du temple pour le ramener à Antioche en Syrie, destruction des rouleaux de la Torah, interdiction de la circoncision, interdiction des sacrifices, interdiction du sabbat et obligation de manger du porc. Ça va quand même loin. Je veux bien qu'on veuille essayer de faire rentrer le peuple juif dans la culture de l'époque, en tout cas c'est le discours qui aurait certainement été employé pour justifier de tels actes, mais là c'est quand même d'une violence extraordinaire. On est en train d'obliger le peuple de l'Alliance à être des pécheurs notoires, à rompre l'alliance avec Dieu. Évidemment, que va-t-il se passer? Le peuple va se révolter. Une famille de sacrificateurs, famille qui porte le nom de Maccabée, va prendre la révolte et purifier le temple. Et là, si vous avez dans certains écrits intertestamentaires ou si vous avez une Bible catholique, comme on l'appelle avec certains livres qui ne sont pas forcément dans nos Bibles, vous avez 1 et 2 Maccabées qui sont deux livres qui vous décrivent cette période historique de la révolte de Judas Maccabée, de Mattathias, des frères, de toutes les personnes qui se sont élevées contre ces profanations d'Antiochus IV. Ça vaut la peine de jeter un œil, ne serait-ce que par curiosité historique. Évidemment, c'est pas un livre qui va être inspiré, qui va contenir forcément autant de leçons spirituelles que n'importe quel livre biblique, mais ça vaut la peine de jeter un œil. Donc une grande vague de persécution qui est annoncée et vécue. On veut non seulement mettre le peuple de Dieu à genoux, mais le faire disparaître complètement ou se fondre dans la masse, si vous me permettez l'expression. Voilà ce qui se passe avec Antiochus, quatrième du nom. Mais Dieu dans tout cela, eh bien Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que même si Antiochus a été un personnage qui a été souvent identifié à l'Antichrist. Quand vous lisez la suite du chapitre, comme on l'a fait, à partir notamment du verset 21, là, on commence à toucher à des événements qui vont au-delà de ce règne et qui nous parlent de l'avènement de l'Antichrist. Alors, il faudrait faire un parallèle, aller regarder un petit peu plus loin dans Apocalypse à partir du chapitre 12 et surtout du chapitre 13, où Apocalypse 13, vous avez l'évocation d'une bête, la bête qui monte de la mer, clairement identifiée à l'Antichrist, guidée par la puissance de Satan pour égarer les élus de Dieu. Le parallèle que vous avez entre le texte de Daniel 11 à partir du verset 21 jusqu'à la fin et Apocalypse 13 est évident. On a affaire au même personnage et à une prophétie qui est encore à venir. C'est là où c'est pas évident. Vous voyez que dans le chapitre 11 de Daniel, on a quelque chose de déjà accompli. Le règne d'Antiochus IV qui préfigure quelque chose d'encore pire qui est encore à venir. Ça va, vous m'avez suivi? Ah, merci. Donc, prophétie accomplie, prophétie encore à venir. Et c'est pas fini. Donc, dans tout cela, on a aussi une évocation claire, en filigrane, de la venue de Jésus-Christ et surtout de la seconde venue, avec la guerre finale et la victoire définitive à la fin des temps. Regardez, début du chapitre 12. À cette époque-là, donc encore à venir, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de Dieu. Vous allez lire dans l'Apocalypse, vous allez retrouver l'évocation du combat de Michel qui est représenté comme le chef des anges pour guider le peuple de Dieu vers la victoire finale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette perspective qu'on voit là, malgré la douleur de la tribulation, malgré tout ce qui est terrible et insupportable à vivre, eh bien, il y a l'espérance d'une victoire finale. Il y a l'espérance qui suit la résurrection des corps pour le jugement qui est annoncé clairement dans la suite. Vous le voyez, hein? À ce moment, verset 2 du chapitre 12, vers fin du verset 1, « Ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, l'horreur éternelle. » D'un côté, les brebis, de l'autre, les boucs. Ça fait pas écho, ça? Matthieu 24, je crois, et suivant. Apocalypse aussi. Jugement dernier, victoire finale de Dieu. Alors, ceux qui ont lu l'Apocalypse ou qui l'ont étudié il y a quelque temps peuvent faire figure de privilégiés parce que ça fait écho à tout ce qui nous attend. Et là, j'y vois une leçon fondamentale du livre de Daniel et de ses chapitres, c'est de dire, chers amis, malgré l'histoire pénible, douloureuse, terrible que l'on vit, Dieu a le dernier mot. Malheureusement, il faut juste qu'on patiente encore. Et c'est Dieu qui a le dernier mot et la victoire finale lui appartient. Alors, je voudrais vous laisser quelques points de repère aussi, quelques leçons qui m'ont marqué à la fois à la lecture de ce passage et à la préparation de ce message. Qu'est-ce que nous comprenons du Dieu qui se révèle ? Le livre de Daniel est donc un livre qui démontre une nouvelle fois la souveraineté de Dieu. J'aime beaucoup cette phrase que l'on attribue, je crois, à Calvin, qui dit « Dieu dirige l'histoire et la conduit à sa bonne fin. » On est avec le chapitre 11 et 12 de Daniel dans cette perspective-là. Ça va passer par des moments difficiles, par des moments de persécution, des moments de douleur, mais Dieu dirige l'histoire et la conduit à sa bonne fin. Finalement, le livre de Daniel commence aussi par nous rappeler que Dieu est cohérent. Pourquoi le peuple se retrouve là? Parce qu'il a désobéi, tout simplement. Relisez le livre de Deutéronome. Regardez toute l'histoire du peuple d'Israël qui marchait à cloche-pied d'un coup en adorant Dieu, de l'autre en adorant les idoles. La déportation, elle est annoncée dans le livre du Deutéronome, clairement. Ils avaient la loi de Dieu, mais ça n'a pas suffi pour que les hommes continuent à marcher de façon indépendante et autonome, sans suivre les recommandations de Dieu. Dieu est cohérent, c'est un juste juge, il a permis cette déportation. Et Daniel se retrouve là, mais il a su rester attaché à Dieu et il a été protégé, tout en étant engagé au service d'une autre nation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été récemment à un mariage, mais un des textes qu'on affectionne souvent pour les mariages, c'est Jérémie 29, 11. Vous savez, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, etc. Et c'est un beau texte qu'on cite dans ce cas-là très souvent hors contexte. Pour une raison très simple, c'est que Jérémie est en train d'écrire aux exilés à Babylone, dont fait partie Daniel, pour leur dire, les amis, vous allez en prendre pour 70 ans. Donc restez, travaillez au bien de la nation. Donc dire lors d'un mariage, je connais les projets que j'ai formés sur toi, s'appuyer sur ce texte, je ne sais pas si on peut apprécier qu'on va partir pour 70 ans, un peu compliqué de captivité. En tout cas, ce n'est pas une vision, à mon avis, du mariage, si on est fidèle au contexte. Au contraire, on est d'accord que ce n'est pas la captivité, les couples mariés venaient à mon secours. Rappelez-le-moi, mais c'est une bonne école de sanctification et de transformation du caractère. Donc, je laisse les points de suspension et je vous laisse compléter. Dieu a permis que Daniel soit présent et que Daniel soit comme un poteau indicateur au milieu de son peuple. Daniel a été protégé, il a été au service d'une autre nation, il a grimpé les échelons sous les différents rois. Et puis, chose extraordinaire, on a, dans Daniel 2, je crois que c'était moi qui avais prêché sur ce passage-là, une évocation que Daniel était le seul, avec l'aide de Dieu, à pouvoir comprendre et avoir accès aux pensées du roi. C'est Dieu qui lui a révélé. Les mages qui s'appuyaient sur des pratiques idolâtres sont totalement incapables de le faire. Et voilà une réalité très importante pour nous. Quand nous luttons dans nos pensées, croyons qu'il n'y a que Dieu qui a accès à nos pensées. Notre ennemi, alors il est suffisamment rusé pour nous faire croire le contraire, il n'est pas capable de lire ce qui se passe dans nos têtes. Et ça, ça le démontre clairement dans Daniel chapitre 2. Mais en plus, Dieu a continué en démontrant qu'il transmettait à Daniel un message utile pour les nations. Il annonce le retour de la captivité. Et puis, il y a un de ces versets que je trouve remarquable au chapitre 7. On va y revenir juste après. Dieu donne un message sur la suite des événements. Daniel, deuxième leçon, est un modèle de foi et de persévérance pour nous. Il reste attaché à Dieu, quelles que soient les circonstances. Quand les ordres du roi vont à l'encontre du plan de Dieu ou des commandements, Daniel ne faiblit pas. Je crois que s'il y avait un fil rouge dans le livre de Daniel, ce serait celui-là. Il persévère, il tient bon jusqu'au bout. Il refuse l'idolâtrie, il renonce à se prosterner devant un homme, devant la statue d'un roi. Il se laisse accuser sans se justifier, il se confie en Dieu et Dieu vient à son secours. La foi de Daniel est donc un exemple pour chacun de nous, un modèle à suivre. On a un Dieu qui se révèle, on a Daniel qui suit les commandements de Dieu et qui met sa foi en action. Et puis on a en filigrane Jésus-Christ qui est présent. Je ne résiste pas au plaisir de vous emmener un peu plus haut, Daniel 7, chapitre 7, verset 13. et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait s'approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Magnifique. Versets 13 et 14 du chapitre 7. Une évocation vraiment explicite de Jésus-Christ. Si on ne voit pas Jésus-Christ au travers de ce passage, c'est qu'il faut changer de lunettes. L'ancien des jours, c'est clairement une allusion à Dieu. Le Fils de l'homme, relisez les évangiles, il est question du Fils de l'homme à plusieurs reprises. C'était un titre honorifique qui désignait le Messie, celui qui a été choisi par Dieu. Il reçoit donc l'autorité des mains même de Dieu. Et au chapitre 12, on voit l'étape d'après. L'évocation claire du retour définitif et de la victoire de Jésus-Christ. À la fin des temps, il va venir pour vaincre définitivement Satan et ses démons. Et Dieu nous informe de la résurrection finale, des élus et des impies, des brebis et des boucs. Le message est clair, la gloire de Dieu, elle va se manifester. Jésus-Christ est clairement celui qui conduit la résurrection des morts, qui nous a précédés sur ce chemin et qui nous invite à le suivre. Alors que retenir de ce passage? Un commentateur nous dit la chose suivante. Dieu cherche des hommes fidèles qui s'attachent à lui. Il se révèle à tous les hommes, mais il ne sauve que ceux qui se confient en lui. Tous sont instruits, mais tous ne sont pas sauvés. Le mot d'ordre adressé à Daniel à la fin du livre est valable pour tous. Honore le Dieu qui s'est révélé. Crois en lui. Attache-toi à lui et persévère dans la fidélité et la droiture jusqu'à la fin de ta vie, quels que soient les honneurs et quelles que soient les épreuves. Eh bien voilà, je pense, l'enseignement essentiel à retenir. La rédemption est finale, est annoncée, la gloire de Dieu se manifestera. Donc, retenons, chers amis, pour conclure, que Daniel nous invite à vivre une vie engagée à la suite de notre Dieu. Malgré les difficultés que nous pouvons avoir à comprendre le livre de Daniel, malgré les moments difficiles que nous pouvons traverser dans nos vies, il ne faut pas hésiter à s'approcher de Dieu. La souffrance, la détresse, les épreuves sont un des nombreux chemins qui peuvent nous ramener à une relation intime, profonde avec Dieu. Évidemment, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres chemins pour aller vers Dieu. Mais gardons précieusement que Daniel, dans les moments de victoire, dans les moments de défaite, il est resté attaché à Dieu sans faillir. Dans la joie, dans la détresse, dans le doute et la tristesse, dans les moments de bonheur et de félicité, Daniel restait attaché à Dieu. Il cherchait la communion avec Dieu chaque instant, chaque jour. Donc ce texte nous invite à considérer la foi d'un homme qui a su faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances. Menacé de mort, exposé à un risque vital avec l'épisode de la fausse lion. Aujourd'hui, on dirait victime d'un stress post-traumatique. Daniel, ses trois amis aussi, qui sont restés fidèles dans l'épreuve de la fournaise, qui ont tenu bon face à toutes les intimidations, la volonté de les supprimer. Il donne l'impression de ne pas douter, de rester toujours dans la confiance en Dieu. Alors, qu'est-ce qui l'a aidé? Sans doute parce qu'il connaissait la fin de l'histoire. Eh bien, chers amis, je pense que nous pouvons garder cela comme une perspective. Nous avons l'espérance d'être avec Dieu. Si nous avons fait le pas de lui faire confiance, de le laisser diriger nos vies, nous avons l'espérance d'être avec Dieu à la fin. Tenez bon, restez et restons, j'ai envie de dire, attachés à cette espérance. La foi chrétienne vaut la peine d'être vécue. Daniel nous invite à faire confiance à Dieu, à rester en communion. Les prophéties qui sont terribles, qui touchent la fin des temps, mise à mort même de certains élus, souffrance, difficultés sont là pour nous inviter à regarder un peu plus loin et à voir que la victoire finale, elle est dans les mains de notre Dieu. Daniel annonce la première et la seconde venue de Christ. Il annonce la victoire finale. Alors soyons encouragés par cette annonce. Et que jour après jour, nous ayons à cœur de pouvoir témoigner avec la foi qui nous porte de cette action extraordinaire. Dieu se révèle, Dieu agit, Dieu a le dernier mot pour conduire l'histoire jusqu'à sa bonne fin. Amen.